On avait démarré tout un thème il y a quelques semaines sur la relation à Christ au travers de l'Église, au travers du corps de Christ. On avait vu dans Éphésiens 5, Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et donc, il était question des relations hommes-femmes, il était dit, voilà, il la nourrit, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Christ prend soin de l'Église. Et ma question, il y a quelques semaines, c'était, est-ce que nous en avons conscience? Et est-ce qu'on réalise que nous sommes chacun un des membres de ce corps de Christ? En pensant à ce thème, je me disais, mais est-ce qu'une cellule de mon corps, je n'ai pas fait de recherche pour savoir combien il y a de milliards de cellules dans mon corps, mais est-ce qu'il y en a une qui pourrait être réveillée puis se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis quoi? Et comment est-ce qu'une cellule peut avoir conscience de tout le corps, de ses déplacements, de sa vie, de ça? Est-ce qu'en tant que cellule, en tant que membre du corps de Christ, j'ai conscience de tout ce corps de Christ? C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus étendu que ce que mes yeux voient, que ce que mes yeux ont conscience de l'Église. On a souvent une image déformée ou insuffisante, limitée de ce qu'est l'Église, parce qu'on regarde aux institutions. Souvent, le mot « Église » évoque chez nous voilà, des bâtiments, des pasteurs, des prêtres, des curés, des moines. J'allais dire, ce n'est qu'une petite partie visible, mais il y a toute la partie de l'Église que l'on ne voit pas, dont seul le Christ a conscience et se rend compte de l'importance et de la vie qui est dedans. J'aimerais continuer en reprenant un autre texte avec vous. Dans Éphésiens au chapitre 3, les versets 16 à 19. Oh, je vais lire au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Des générations se sont succédées dans l'Église. On a la chance d'avoir pouvoir regarder dans le rétroviseur et on a 20 siècles d'histoire de l'Église. Moi, j'aime particulièrement l'histoire de l'Église. C'est une histoire qui n'est pas forcément simple. Parfois, elle serre le cœur, elle broie le cœur, parce que les hommes d'Église, les femmes d'Église n'ont pas toujours été à la hauteur de ce que le Christ aurait aimé que ce soit. Et puis en même temps, le Seigneur aimerait que l'on comprenne quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Il est répandu dans l'Église. je ne peux pas aimer Christ. Moi, c'est une des révélations, j'allais dire, principales de ma première année de vie chrétienne. Je ne peux pas aimer Christ sans aimer l'Église. Si Christ a jugé utile de donner sa vie aussi pour l'Église, pour ce corps de Christ, c'est que c'est quelque chose d'important pour lui. Si c'est important pour Christ, est-ce que ça ne sera pas important pour moi? Quel est mon dialogue avec le Christ Jésus pour recevoir cette révélation, cette compréhension de l'Église? Connaître l'amour de Christ jusqu'à ce que l'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Je ne recevrai pas, je ne vivrai pas de plénitude de Christ, de Dieu personnel, pour moi, tant que ma vision de l'Église sera petite, maigre, rabougrie, desséchée. Je ne sais pas très bien comment l'exprimer. Mais tout seul, je ne peux pas refléter toute la plénitude de Christ. C'est avec chacun, c'est ensemble, c'est avec, dans, en le corps de Christ, en Christ et en le corps de Christ, que toute la plénitude de Dieu peut être révélée dans ma vie. Le mot plénitude, c'est le mot pléroma, ce qui remplit quelque chose, ce qui complète quelque chose, ce qui est sans limitation, 1000, 10 000, 1 million, 1 milliard, c'est au-delà des chiffres, sans mesure, c'est la surabondance, ce qui achève parfaitement ce qui a commencé. Est-ce que vous avez envie que Christ achève en vous ce qu'il a commencé? Alors pour certains, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. On a souvent présenté dans le milieu évangélique, pentecôtiste, la conversion comme étant la grande chose de la vie. C'est vrai. Mais ce que je vis aujourd'hui est aussi important que ce que j'ai vécu il y a 46 ans, ces premières années de conversion, qui en même temps qui étaient extraordinaires. Mais ce que je vis aujourd'hui a autant de poids, autant de force, autant d'étendue, de largeur, de profondeur que ce que j'ai reçu il y a 46 ans. Ne jamais chercher à éviter l'effort. Alors, c'est peut-être pas un message qui est toujours, écoutable. On aimerait tellement... Les Français sont connus pour leur entrée dans ces charentaises. C'est ces chaussons souples avec une semelle. On présente souvent les ouvriers français qui rentrent chez eux le soir. Ils mettent les pieds dans les charentaises, s'assiedent dans un fauteuil. Ils prennent un journal et puis une espèce de vision idyllique d'un retour du travail. Est-ce que c'est notre vision de l'Église? Je mets mes charentaises spirituelles chrétiennes et puis j'attends le retour du Seigneur. Ou bien est-ce que quelque chose continue de se développer en moi qui me donne soif de connaître Christ? Mais connaître Christ, c'est aussi connaître tout ce qu'il fait, tout cet environnement, toute sa présence dans ce monde. Aujourd'hui, on a un organisme qui nous aide beaucoup, c'est Portes Ouvertes, parce qu'il nous aide à regarder toutes les églises en difficulté, mais il y a aussi toutes les autres, toutes ces églises qui vont bien, qui se développent. Juste un chiffre, il y a 2,4 milliards de chrétiens dans le monde. Alors, chrétiens avec tout le spectre que ça veut dire. Les gens qui sont affiliés à une église au niveau social, les gens qui font une fois à l'église, Pâques, Noël, les enterrements, les baptêmes, enfin voilà... 2,4 milliards de chrétiens pour 1,3 milliard de musulmans. Mais le christianisme se développe. Il y a des églises en Chine, enfin dans plein d'endroits, en Amérique du Sud, en Afrique. Il y a des endroits où l'église se développe. Christ est attentif jusqu'à ce que la plénitude des nations, des païens, soit amenée à lui. Alors peut-être en ce moment, avec les nouvelles, beaucoup ont peut-être soif du retour de Jésus, en disant « Seigneur, toutes ces choses qui se passent dans le monde, reviens, et puis en même temps, voilà ces paroles auxquelles il faut être attentif, le Père seul sait quel sera le pléroma, la plénitude, plénitude d'hommes et de femmes qui peuvent être sauvés. Et le Père va attendre, va donner le maximum de possibilités aux hommes pour être sauvés, pour former cette Église, voilà, qui un jour du retour de Jésus, sera réunie à toute cette racine qui nous porte à Israël. Et puis, il y aura un homme nouveau, des choses nouvelles, mais en attendant, il nous faut saisir, comprendre, vivre l'Église de Christ, le corps de Christ. J'aimerais lire avec vous un texte dans Colossiens. Colossiens au chapitre 1, des versets 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous sommes réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Christ a été élevé sur la croix. C'était dans de nombreuses prières ce matin. On lui a posé une couronne d'épines, on l'a cloué sur la croix, on l'a percé son côté. 50 jours après, les disciples dans la chambre haute étaient remplis du Saint-Esprit. Puis à partir de là, le monde entier a été irrigué par la foi chrétienne. Et je disais tout à l'heure, ayons conscience, hein, 2,4 milliards d'hommes, de femmes qui professent la foi chrétienne à des degrés divers. Prions pour que ce corps de Christ continue de se développer par la grâce de l'Esprit. Et que ce pléroma, cette totalité, cette plénitude, cette multitude des hommes, des femmes, puisse entrer dans le royaume de Dieu. Toutes choses un jour seront réunies en Christ. Quand Christ regarde l'Église, il voit son corps. Il ne voit pas de dénomination. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de se détacher de ce côté-là visible de l'Église. Quand on rencontre des catholiques, ils disent « Ah oui, mais vous, les protestants, les évangéliques, on n'y comprend rien. » Toutes sortes de dénominations. Après, on renverse l'argument et on dit « Oui, mais si on prend toutes les associations et toutes les chapelles dans l'Église catholique, la chose est pareille. » J'ai un livre avec moi, là, ici, qui s'appelle « Les églises de tradition orientale ». Si vous lisez toutes les églises orientales qui existent, les églises orthodoxes, coptes, les églises de rite, comme ci, comme ça, pareil, à un moment donné, on regarde une église charnelle, une église visible, et puis parfois, on a les bras qui tombent un peu, on est un petit peu découragé. À chaque fois, je me dis, regarde à Jésus et regarde au corps de Christ, à quelque chose d'organique et de vivant. Quand je regarde les êtres humains, quand je regarde les arbres, moi je suis un contemplatif de l'arbre. Quand il y a un arbre extraordinaire avec une circonférence énorme et puis un chêne qui a 1000 ans, c'est quoi, il y a dindrons, certains ont 2000, 3000, 4000 ans, les plus vieux. Ils existent depuis Abraham, je me dis, voilà, il y a quelque chose d'organique, la vie se développe parce que je peux regarder l'Église, ce corps de Christ, comme quelque chose de plus grand que moi, quelque chose de vivant, quelque chose de fort, quelque chose qui a 2000 ans d'âge. Alors bien sûr, il y a des branches à couper, il y a de la mise à fruit, il y a des choses à faire. Mais essayons de valoriser dans nos cœurs, dans nos esprits, ce que Christ fait et est au travers de l'Église. Éphésiens chapitre 1, les versets 20-23. On va aller, je lis un petit peu au verset 17. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Christ est à la droite du Père. Et là où est la tête, là est le corps. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer, grandir dans une révélation de ce qu'est la réalité de Christ et de son corps aujourd'hui? Et je pense que dans les années qui viennent, c'est une vision, une révélation dont les êtres humains ont besoin. Pour ne pas regarder seulement les déraillements du monde, des nations, mais regarder ce que Dieu veut construire. Et je pense qu'il veut accélérer cette force, cette puissance, cette stature du corps de Christ aujourd'hui. Comment est-ce que l'on peut vivre cette plénitude, ce pléroma de Christ en nous? Juste trois choses, je peux les développer à l'extrême, mais Christ a offert son corps. Est-ce que je peux faire une offrande de mon corps, de ma vie? Ça c'est Romains 12, hein. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Christ l'a fait de manière volontaire. Alors peut-être ça peut nous faire peur, faire le pas de dire, voilà, Seigneur, oui, oui à tes dons, oui à tes services, je veux être rempli de ton esprit, je veux manifester des dons spirituels, je veux continuer à grandir. Oui à la sainteté. On a souvent aussi une vision un peu spéciale de la sainteté. On a l'impression que c'est... La sainteté, c'est non à tout ce que... C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas que c'est une vision aussi positive de la sainteté. C'est tout ce que je peux faire et être pour Dieu. C'est tous les oui à ce que le Seigneur me demande. C'est construire une image positive des dons et des services. 46 ans, je me suis dit, aïe, 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 à tous les coups. Seigneur, si je crois en toi, à tous les coups, tu vas me demander plein de choses. Puis je vais dire, ben, ça n'a pas raté. Mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se construit. Seigneur, au-delà de mes faiblesses, de mes peurs, de mes craintes, de mes incompétences, de tout ce que je ne veux pas possible, construis en moi quelque chose qui me permette d'entrer dans cette plénitude, dans ce pléroma, dans cette totalité. J'aimerais... Ça, c'était toute la vision de Christ, l'Église en tant que corps de Christ. Il y a toute une image de l'Église qui est liée à la relation homme-femme, à la relation d'amour, à la relation affective, à la relation d'amour, d'amitié. Quelque chose de différent. J'aime beaucoup aussi cette image de ce qu'est aussi l'Église. L'Église, c'est aussi une relation d'amour, comme la vie de couple, comme la vie de famille, la vie avec les enfants, comme la vie avec les amis, la fraternité. J'aimerais lire un texte avec vous, je vais sauter une partie, je vais passer lire un texte dans le livre de Ruth. On va lire dans Ruth au chapitre 1, les versets 14 à 18. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Donc il s'agit des deux belles-filles de Naomi. Orpa baisa sa belle-mère, embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si d'autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Je suis assez attaché à ce texte. C'est un texte de l'attachement. Comment est-ce que dans un couple, dans une famille, avec les enfants, à plus forte raison, avec le Dieu, Père, Fils, Esprit, il est où mon attachement? Est-ce que l'ennemi parfois vient et dit, mais retourne en arrière, tu ne vas pas quitter tellement de bonnes choses dans ce monde? Orpa, elle a... Je ne sais pas si elle a choisi la bonne part, en tous les cas... Ruth a choisi la bonne part. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Vous vous rappelez les disciples? Quand Jean leur a présenté Jésus, Jésus leur a dit, viens et suis-moi. Puis là, ils lui ont posé la question, mais Seigneur, où tu habites? Parce que là où tu habites, nous, on veut habiter aussi. On veut être en toi. Ruth a compris qu'il y avait un chez-elle, il y avait quelque chose, il y avait une relation particulière avec cette femme. Est-ce que je suis prêt à dire à Jésus, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Si Jésus demeure à la droite du Père, voilà, je veux en être. Là où est Jésus, je veux être là où il est, je veux être comme lui. Je veux habiter en lui. C'est tous ces textes de Paul en Christ. Parfois, on a l'impression que c'est théologique, c'est tellement élevé, c'est au-dessus. Non, c'est des choses... Ça, je veux dire, c'est des textes au ras des pâquerettes. Seigneur, où tu iras, où tu voudras m'emmener, j'irai. Je suis prêt à te servir comme je suis, là où je suis. Je veux faire le maximum. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Seule la mort me séparera de toi. Est-ce que vous avez déjà dit dans un choix personnel, volontaire, à Jésus, seule la mort, non, la mort ne me séparera pas de Christ. Vous voyez comment nos raisonnements humains parfois peuvent aussi bloquer, coincer. La mort ne me séparera même pas de Christ. Ce sera encore une vision plus grande. Donc, est-ce que c'est difficile de franchir le pas ? La plénitude de Christ, le pléroma de Christ, c'est pouvoir jour après jour dire oui sur tous ces choix fondamentaux. Seigneur, si tu veux que j'aille prier, si tu veux que j'aille parler à telle personne, si tu veux que j'ouvre ta parole, si tu veux, toi viens, suis-moi. Naomi n'a pas fait pression sur ces deux belles filles. Elles ont eu le choix. Il y en a une qui a fait le choix de partir. Il y en a une qui a fait le choix de la suivre. Ruth s'attacha à elle. Est-ce que l'on est prêt à s'attacher à Christ et au corps de Christ ? Premier mois de vie chrétienne, moi je suis que j'étais attaché quelque part à l'église où Dieu m'avait placé. Alors je n'avais pas l'autre choix, si j'aurais sans doute eu d'autres choix. Mais j'ai fait un choix libre en disant, voilà Seigneur, je veux être disponible. La sainteté, c'est simplement ça. C'est disponible jour après jour. Construire sa propre vie, construire la vie de l'Église. Si vous avez du temps chez vous, vous pourrez lire dans 1 Samuel 20 tout l'attachement du fils de Saül, Jonathan. Il était copain avec David. Il s'est rendu compte que Dieu avait choisi David par rapport à lui. C'est lui qui aurait dû hériter de la royauté. Et il a accompagné David en lui disant, je vais te protéger de mon père. Le jour où tu seras sur le trône, moi ça m'est égal. Je suis là pour faire alliance avec toi. Et il y a une amitié, une fraternité qui s'est développée, qui était particulière. Je crois que Dieu met sur notre route, sur notre chemin, des hommes, des femmes avec qui on va nouer des alliances particulières. J'en ai une avec Jean-Marc et Francine. C'est des alliances qu'on choisit pas, elles nous sont données. Elles sont précieuses. Il y a des hommes pour qui c'est difficile de faire une alliance pour la vie. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous laisse avec ces réflexions sur l'Église. J'espère que vous n'aurez pas trop effrayé. Voilà, mais que ça puisse réveiller en nous, voilà, une vision de l'Église XXL. Et que l'on appartient à quelque chose qui nous dépasse. Et puis notre vision, à chaque fois, je dois continuer encore à grandir, à évoluer. C'est pas quelque chose qui... Ce qui est organique se transforme, se développe, porte du fruit et donne la vie. Avoir une vision de l'Église qui soit une vision organique, comme ça on va prier ensemble. Marcellus, merci d'avoir placé toute plénitude dans ton Fils, le Christ, à Jésus. Merci de cet apprentissage que tu nous donnes à chacun, de pouvoir évoluer dans notre vision, dans notre compréhension de ce corps de Christ. Seigneur, merci d'être à la tête, merci d'être celui qui préside, qui dirige. Merci d'exercer ta souveraineté. Seigneur, que toute cette Église sur la face du monde puisse être renouvelée, vivifiée, puisse être prête pour ton retour, être cette épouse, cette fiancée. Merci pour toutes ces images qui nous parlent de l'Église. Merci parce qu'elles sont nombreuses. Merci pour cette largeur, cette hauteur, cette longueur, cette profondeur de ton amour aussi au travers de l'Église. Aide-moi à continuer à dire oui à tes projets pour ma vie. Je te prie pour chacun que nous puissions être les uns les autres, au service les uns des autres, et grandir dans cette plénitude, grâce sur grâce, abondance sur abondance, bénédiction sur bénédiction. Amen.